si la philosophie ne les avait précédés en leur ouvrant la voie. Aujourd'hui, les sciences se prétendent au contraire sorties de la philosophie, au sens où quelqu'un est sorti d'une épreuve qu'il aurait victorieusement surmontée. Elles se suffisent désormais à elles-mêmes. Mais elles reposent en réalité dans la philosophie. Déniaiser les savants, selon le mot de Nietzsche, serait leur demander d'être moins oublieux d'eux-mêmes et de comprendre que Heidegger, ce n'est pas contre la science qu'il parle, mais bien pour elle, c'est-à-dire pour plus de lumière quant à ce qui lui est radical. Ce qui procurerait à l'homme moderne plus de liberté peut-être à l'égard de la science elle-même, dont il est positivement, nous l'avons dit, intoxiqué. Mais cela, ce n'est pas de la science qu'il peut le savoir. C'est d'une lecture à rebours de toute l'histoire de la philosophie où l'apparition des sciences dans leur figure moderne est un épisode décisif, mais seulement un épisode. Et sur ce point, je crains qu'aux hommes de science, cette désinvolture soit difficile, bien qu'elle reste en tout temps possible. Personnellement, je n'ai pas encore trouvé parmi eux l'oiseau rare.
Réfléchir sur la science, jusqu'à la mettre en question, ou l'abandonner à son propre mouvement, quel est l'enjeu ?
Il est bien entendu que cette mise en question de la science n'est pas une éviction de la science, et que réfléchir sur la science doit être pris au sens du retour amont que propose Heidegger, et qui est de remonter de ce qui est embouchure du fleuve à sa source encore secrète. C'est cela le sens du Zurück zu den Griechen. Retournons jusqu'aux Grecs, non pas, bien sûr, pour philosopher à nouveau en mode grec, mais pour s'interroger plus diamétralement encore sur ce qui est la source de la source grecque elle-même. Cette recherche de la source d'une source, c'est toute la pensée de Heidegger.
Et si cette remontée à la source jusqu'à la source ne se fait pas?
Alors, nous serons entraînés par le flot jusqu'où il n'est pas possible de la dire, au sens où Goethe écrit du fleuve, quoique se mire en lui d'un niveau à tant d'autres, rien ne peut arrêter sa course vers l'aval.
Dans cette 8e émission, Jean Beaufret poursuit son dialogue avec la pensée de Martin Heidegger, dont ils furent, durant 30 ans, l'interlocuteur, le compagnon de route et l'ami. Il revient aujourd'hui sur la question de la technique, question dans laquelle Jean Beaufret voit l'ultime étape du chemin de Heidegger. Il ne s'agit nullement d'imprécation contre la technique et ses effets, encore moins d'un appel à la nostalgie du bon vieux temps, mais d'un questionnement radical sur sa nature encore non pensée, afin de la mieux comprendre et de nous permettre un jour d'avoir peut-être un rapport plus libre avec elle. Jean Beaufret. Le grand écrivain allemand Ernst Jünger, dans son livre « Le Travailleur », publié en 1932, annonce le premier, le temps du langage universel de la technique et celui de la mobilisation totale de l'homme des temps modernes sous la figure du travailleur. Ces réflexions de Jünger ont alors attiré l'attention de Heidegger. S'agit-il d'une mobilisation de tout ce qui est dans le cadre d'un projet qui vise à la domination totale de la nature?
C'est certainement à partir d'une lecture du livre de Jünger qui date de 1932 et qui avait paru en Allemagne sous le titre Der Arbeiter, le travailleur, que Heidegger, pour la première fois peut-être, se sent attiré vers une problématique qui, dans Ein und Zeit, restait encore indistincte. Au cours de l'année 1939-40, Heidegger s'était préoccupé d'expliquer ce que disait Jünger dans son livre sur le travailleur dans un petit cercle de professeurs d'université, disait-il. Il s'agissait donc ni d'un cours ni d'un séminaire, mais d'une réunion en quelque sorte privée. Et au sujet de ces réunions, il avait écrit la notice suivante. Le livre d'Ernst Jünger, Le Travailleur, est un livre de poids, parce qu'il entreprend, d'une autre façon que Spengler, ce dont jusqu'ici toute la littérature d'origine nietzschéenne s'est montrée incapable, il entreprend de rendre possible une expérience de l'étang et de la façon dont il est à la lumière du projet nietzschéen de l'étang comme volonté de puissance. Il est vrai que la métaphysique de Nietzsche n'est aucunement saisie par là d'une façon pensante. Les chemins d'une telle pensée ne sont même pas indiqués. Au contraire, au lieu de devenir problématique au vrai sens du mot, c'est-à-dire digne de question, cette métaphysique apparaît comme allant de soi et, pour tout dire, comme un hors-d'œuvre. Voilà le texte qui avait été écrit à l'époque, dans lequel il dit très clairement que ce livre s'inspire de Nietzsche, un peu au sens où la science moderne s'inspire de Descartes sans le voir. C'est-à-dire, Jünger, comme Spengler, se situe dans la ligne de Nietzsche, la philosophie de Nietzsche, lui apparaissant comme une sorte d'évidence. De telle sorte qu'elle ne fait question nulle part. Par conséquent, on voit très bien les directions dans lesquelles se trouve Heidegger. D'une part, la direction vers Nietzsche, qui reste nébuleuse et opaque, et d'autre part, une direction vers le livre d'Ernst Jünger, dont le concept de mobilisation totale paraît essentiel à Heidegger pour caractériser ce qu'il appellera un peu plus tard la rencontre de la technique planétarisée et de l'homme des temps modernes.
Dans son livre Der Arbeiter, le travailleur, Ernst Jünger annonce en effet le temps de la mobilisation totale et le langage universel de la technique. Ce sont ces deux aspects qui ont attiré l'attention de Heidegger.
Mobilisation totale et technique sont ici des termes corrélatifs. Pour Jünger, cette mobilisation totale du fait de la technique moderne n'a rien à voir avec le totalitarisme au sens politique. Même le libéralisme antérieur, dit-il, a labouré le champ pour quelque chose de tel que la mobilisation dont il parle. Il ne s'agit pas d'une organisation militaire ni d'une organisation despotique, mais quelque chose de beaucoup plus invisible et de plus secret qui caractérise la situation de l'homme dans le monde moderne, dans la mesure où la figure essentielle de ce monde lui-même est résumée dans le terme de technique, d'organisation technique du monde.
En ce sens, le travailleur est pris lui-même dans le monde de la technique, et c'est à cause de cela qu'il devient un homme totalement mobilisé.
C'est bien en ce sens que par le Junger, ce n'est pas parce que un régime serait devenu politiquement plus despotique qu'un autre qu'il est mobilisateur. La mobilisation est dans le filigrane même du régime le plus libéral qui se puisse imaginer. Par exemple, si vous voulez, quelque libéral que soit le régime, nous n'en sommes pas moins transformés en autant de producteurs que de consommateurs.
Quelles pourraient être alors les causes réelles, profondes de ce processus, de cet état de choses?
Eh bien, précisément, ce que vous appelez les causes réelles, profondes, à aucun moment, Junger ne s'en préoccupe. Il constate un état de fait. C'est Heidegger qui va se proposer d'éclairer le phénomène comme il le fera dans la conférence qui aura lieu bien plus tard, c'est-à-dire seulement en 1952, la question posée étant « Die Fragen nach der Technik », la question de la technique. Dans le livre de Junger, il n'y a aucune tentative pour comprendre le sens de la technique. Tout est rassemblé quant aux effets de l'organisation technique du monde. Mais la technique elle-même lui apparaît représentant le type, la marque, le symbole, pour ainsi dire, de cette organisation du monde, mais à aucun moment il ne se demande qu'est-ce que c'est au juste que la technique. C'est ça, ce ne sera plus la question de Junger, ce sera la question de Heidegger.
Que fait donc Heidegger pour tenter d'éclairer ce qui lui paraît énigmatique, bien que tout le monde, dit-il, ait l'impression de savoir de quoi il s'agit, le monde de la technique?
Ce que fait Heidegger, c'est d'interroger le terme même de technique. C'est un terme, dit-il, qui est dérivé du grec, qui est décalqué du grec, comme certains autres termes, comme par exemple le mot musique, est non moins décalqué du grec, comme héliotrope ou comme téléphone. Ce sont des termes décalqués du grec. Mais ce que dit Heidegger, c'est que ce décalque du grec est plus qu'un simple décalque du grec et qu'il garde en lui le sens que les Grecs donnaient au terme de techné, tel que l'emploie par exemple Platon. Heidegger souligne ici que techné, au sens de Platon, au sens où l'emploi de Platon, est rigoureusement synonyme de épistémé, et que le terme ne désigne aucune supériorité de type manuel et aucune supériorité, comme on dirait aujourd'hui, de type technique, mais est l'équivalent exact du savoir. Par conséquent, le technique de quelque chose, c'est être en face de la chose telle qu'elle se manifeste à découvert. Voilà quel était le sens qu'il donnait à techné. Et non pas le sens de la possibilité d'une opération pratique relativement à une attitude théorique possible de l'homme par rapport aux choses. Que le mot n'apparaisse qu'au XVIIIe siècle peut se comprendre par ceci, que le mot art, qui est employé par Descartes, bien sûr, se spécialise de plus en plus dans un autre domaine, qui soit celui des beaux-arts essentiellement, c'est-à-dire l'art est de plus en plus déplacé de son ancien logis vers le domaine qu'à la fin du XIIe siècle on appellera celui de l'esthétique, et c'est bien le mot art tel que l'emploie Théophile Gautier, par exemple. Mais il semble que le besoin se fasse sentir de remplacer le mot art par un autre mot dans un domaine autre. Et c'est alors que apparaît le mot technique, d'abord au masculin. Comme si le mot art, qui est un mot masculin, avait déteint sur technique. C'est ainsi que Diderot dit le technique de la peinture. Le technique de la peinture, ça veut dire tout simplement l'art de peindre. La technique apparaît, elle, au féminin, au XIXe siècle seulement. Et tout ce que je puis dire de certain sur ce point, c'est qu'on trouve l'allocution dit technique dans le Capital de Marx. Et que Marx est préoccupé longuement de la technique moderne, en particulier dans les chapitres qui sont traduits en français sous le nom de machinisme et grande industrie. Le machinisme, tel qu'il ne commence à paraître qu'au virage du 18e au 19e siècle, je veux dire, est l'un des aspects de la technique.
Alors, l'acception toute moderne du mot technique nous cache en réalité son essence véritable.
Oui, car technique signifie, renvoie essentiellement au machinisme. Tandis que si l'on remonte au sens grec du terme, technique ne signifie pas l'emploi des machines, technique signifie l'apparition de l'étang comme il est. Or, nous vivons à une époque où c'est dans l'horizon de ce que dit le mot technique que l'étang apparaît tel qu'il est. Par conséquent, il faudrait donner au mot technique le sens d'un dévoilement de l'étang en lui-même, plutôt que de l'application de mesures pratiques relativement à l'étang en vue de le transformer. Ça, c'est l'apport propre de Heidegger. Et si l'on essayait d'entendre le mot technique d'une oreille plus grecque?
Mais alors aujourd'hui, dans les temps modernes, l'étang, la réalité, l'étang est sommé d'apparaître, mis en demeure d'apparaître sous la figure de la technique.
Et non, il n'est pas sommé d'apparaître. Il apparaît de telle sorte qu'il ne puisse plus être que sommé. Il apparaît de telle sorte qu'il ne puisse plus être que mis en demeure. Par exemple, un fleuve n'apparaît aujourd'hui que dans la mesure où il puisse être sommé de livrer une énergie utilisable.
Est-ce ce processus qui conduit l'homme à prendre l'étang pour cible?
Peut-être, oui. Voulez-vous dire par là que l'attitude de l'homme par rapport à l'étang est devenue beaucoup plus agressive qu'elle ne l'était dans d'autres mondes que celui qu'on appelle le monde de la technique moderne. Il n'est pas sûr que un fleuve pour les Grecs était le moyen de le traverser. Il était d'abord le fleuve, le grand fleuve, qui rendait la contrée fertile en la traversant. Le fleuve était porteur de vie, et non pas moyen de produire un effet utilisable. Par conséquent, Heidegger a bien raison de montrer que, dans ce qu'on appelle le monde de la technique, il s'agit d'un mode d'apparition de l'étang et non pas d'une manière de s'en servir. Tout ce qu'il dit est tout à fait conforme au sens grec du mot techné, qui disait la possibilité pour l'étang d'apparaître tel qu'il est et non pas tel qu'il nous soit utile ou nuisible, par exemple. Par conséquent, il emploie le mot technique dans un sens tout différent de celui qu'il a couramment, sens qu'il renouvelle du grec. Et la question qui se pose est alors de savoir à partir de quoi l'étang lui-même apparaît comme sommable, comme susceptible d'être mis en demeure. Et sa réponse, c'est à partir du moment où le savoir s'identifie avec les sciences mathématiques de la nature. C'est-à-dire que l'apparition des sciences mathématiques de la nature au XVIIe siècle seront pour Heidegger l'apparition de l'âge même de la technique. Bien que les machines ne viennent, comme on le sait, qu'au cours du XVIIIe siècle pour se développer seulement au 19e siècle, mais la vue galiléenne ou cartésienne de la nature est essentiellement technique parce qu'elle présente l'étang de telle sorte qu'il soit sommable quant à quelque chose, si bien dit Descartes que grâce au nouveau savoir que j'apporte, les hommes pourront devenir comme maîtres et possesseurs de la nature.
Donc une vraie histoire de la technique ne peut pas se contenter de voir l'évolution de la technique comme une suite de progrès qui aurait commencé dès l'Antiquité, qui se serait poursuivi pour arriver aujourd'hui à un état plus complexe ou plus opérationnel. Il s'agit véritablement, dans le cas de la technique moderne, de tout autre chose que ce qui existait avant Descartes.
Mais bien sûr que de ce qui existait avant Descartes, et même, on peut dire que la technique n'a pas beaucoup varié pendant des siècles. La plupart des historiens de la technique notent comme caractéristique du Moyen-Âge l'invention d'une autre manière d'atteler les chevaux. Les Grecs attelaient les chevaux par le col, et c'est au Moyen-Âge qu'on découvre le moyen de les atteler par les épaules. Le mode d'attelage grec étranglait les chevaux et faisait que les Grecs n'étaient pas des charroyeurs, mais étaient plutôt des cavaliers. Tandis que les gens du Moyen-Âge deviennent des charroyeurs, simplement parce qu'ils ont inventé une autre manière d'atteler les chevaux. Mais c'est très peu. S'il ne s'est passé que ça entre le monde grec et l'époque moderne, il s'est passé très peu de choses. Il s'est en effet passé très peu de choses. Et même lorsque j'étais enfant, et je voyais encore des gens travailler la terre avec des charrues comme au temps des Grecs. On appelait ça des arères. C'était les charrues à un seul manche. On n'en trouve plus aujourd'hui, sauf peut-être dans des musées agricoles, et c'était encore en usage courant, au moins chez les gens d'un certain âge.
Vous disiez tout à l'heure, l'étang est pris pour cible, mis en demeure, sommet. Que signifie cette sommation? Que veut-elle dire?
Cette sommation s'effectue essentiellement par une transformation du savoir, c'est-à-dire une transformation du savoir grec en science mathématique de la nature. La description de l'étang comme sommable est faite admirablement par Auguste Comte dans la première leçon de son cours de philosophie positive. Il écrit « Nos moyens naturels et directs pour agir sur les corps qui nous entourent sont extrêmement faibles et tout à fait disproportionnés à nos besoins. » Agir sur les corps qui nous entourent, c'est déjà parlant. Et il continue « Toutes les fois que nous parvenons à exercer une grande action, c'est seulement parce que la connaissance des lois naturelles nous permet d'introduire, parmi les circonstances déterminées sous l'influence desquelles s'accomplissent les divers phénomènes, quelques éléments modificateurs, qui, quelque faibles qu'ils soient en eux-mêmes, suffisent, dans certains cas, pour faire tourner à notre satisfaction les résultats définitifs de l'ensemble des causes extérieures. On ne peut mieux définir la sommation dont il parle, elle se réduit ordinairement à l'introduction de quelques éléments modificateurs qui suffiront à faire varier dans un certain sens l'action de ce qu'il appelle les causes extérieures. Par exemple, si vous voulez, si l'équation d'une droite est pour Descartes y égale ax plus b, si je modifie tant soit peu b, cela déplace la position de la droite, et si je modifie tant soit peu a, cela fait qu'elle est plus ou moins inclinée sur l'axe des abscisses. Si peu que ce soit, presque rien. Par conséquent, c'est dans le cadre d'une apparition déterminée de l'étang que la sommation est possible.
Et ce type d'action, c'est celui qui caractérise, en fait, le monde moderne.
Mais bien sûr, le monde moderne est le monde où, pour voir clair, il n'y a qu'à tourner un bouton. Si vous ne pensez pas que par là la lumière a été sommée d'apparaître, alors qu'est-ce qu'il vous faut? Là où Héraclite disait « L'homme s'allume un flambeau dans la nuit », et je me rappelle encore la cérémonie de l'allumage des lampes lorsque j'étais enfant. Maintenant, il n'y a plus de cérémonie de l'allumage des lampes qui ne faisait qu'au moment où il ne faisait pas encore assez nuit pour quasiment être allumé, mais où il commençait déjà de ne plus faire assez jour pour qu'on puisse s'y retrouver, il y avait un moment presque sacré, si vous voulez, dans la journée, qui était celui d'allumer la lampe. Aujourd'hui, on y regarde. Pas de si près, on tourne un bouton. Et puis on refait le noir quand on veut en le tournant dans un autre sens, ou dans le même sens, par-dessus le marché. Car ça peut être le même sens, ça peut tourner indéfiniment en rond. Tantôt ça allume, tantôt ça éteint.
Alors qu'est-ce qui est réellement différent? Qu'est-ce qui a été peut-être perdu?
Ce qui est de totalement différent, c'est que pour voir clair aujourd'hui, vous ne comprenez plus rien à ce qui se passe. C'est-à-dire, vous avez à votre disposition toute une théorie de l'électricité dont vous ignorez les moindres éléments, mais qui est mise à votre disposition par le phénomène du bouton. Quelque chose de tel qu'un bouton a été totalement étranger à la pensée des Grecs. Ils auraient trouvé ça fabuleux qu'en tournant un bouton puisse se produire quelque chose. Je crois que le bouton a été une des choses qui ont plongé Heidegger dans la stupeur la plus admirative, au point que dans une lettre qu'il m'a écrite en 1964, pour répondre à quelques questions concernant la technique, c'est l'exemple du bouton qu'il prend aujourd'hui. Pour voir clair, on tourne un bouton. Et alors si ça ne marche pas, on est bien embarrassé, il faudra faire venir l'électricien. Tandis qu'avant, vous n'avez personne si la lampe ne s'allumait pas bien.
Et aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'électricité, du nucléaire et de la technique. Alors, que faut-il faire pour retrouver le sens profond de ces phénomènes dont vous parlez?
Nous l'avons dit sur tous les temps au cours de ces entretiens, tenter le retour à mon, c'est-à-dire voir comment ces phénomènes, loin d'être présupposés n'importe où et dans n'importe quel passé, ne se sont produits que peu à peu au cours d'une longue histoire.
Et c'est cette histoire que nous devons comprendre.
À rebours!
Pour mieux nous comprendre.
Pour nous comprendre nous-mêmes.
Et prendre un rapport plus libre avec ce monde de la technique dont nous pouvons devenir...
Mais les objets, ou mieux les objets de la technique elle-même, c'est à ce niveau qu'est ravalé le prétendu maître et possesseur de la nature que Descartes avait salué dans l'homme moderne. Il est l'esclave de la technique.
Le travail philosophique est-il indispensable pour retrouver le sens de ce chemin?
Si l'on pense, comme l'a dit Hegel, que la philosophie répond à l'essence la plus secrète, que l'histoire de la philosophie est l'essence la plus secrète de l'histoire du monde, comment voulez-vous faire autrement? Toute la question est de savoir si on prend ou non la philosophie au sérieux. Si l'on se comporte à l'égard de la philosophie comme un homme de science moderne, il est bien évident que c'est du grec, de l'hébreu ou je ne sais quoi qu'on dit devant lui. Si au contraire, on s'étonne que quelque chose ait pu avoir eu lieu dans le monde, quelque chose de tel que l'histoire de la philosophie, alors... Peut-être est-il possible d'essayer d'obtenir une réponse à ces questions par une lecture de cette histoire. Mais quelle lecture? Toute la question est là, c'est-à-dire nous n'avons ni dictionnaire ni grammaire qui nous permettent de l'entreprendre. Nous n'avons que le seul Heidegger qui nous ait montré une voie difficile à suivre et qu'il appelle parfois son chemin de Cézanne.
Deux des plus grands physiciens des années 30, Werner Heisenberg et Carl Friedrich von Weizsäcker, étaient venus un jour trouver Heidegger. Voici le récit que fit Weizsäcker de cette rencontre. J'aime à dire qu'à mon avis, Martin Heidegger est le philosophe le plus important du XXe siècle, et peut-être le philosophe du XXe siècle. Pour me faire comprendre, le mieux est de raconter comment j'ai fait la connaissance de Heidegger. C'était lors d'un entretien où m'avait amené Werner Heisenberg en 1935, quand j'étais son assistant. nous nous mîmes tous deux à parler science ensemble et parlâmes avec excitation pendant peut-être une bonne heure. Nous discutâmes et finalement nous embrouillâmes si bien que nous ne nous comprenions plus l'un l'autre. C'est alors qu'intervint Heidegger, qui avait tout écouté attentivement. Il se tourna vers moi et dit « Si je vous ai bien compris, monsieur von Weizsäcker, votre avis est le suivant. » Vinrent alors trois propositions tout à fait claires, et je n'eus qu'à répondre « Oui, c'est exactement ce que j'ai voulu dire. » Heidegger dit alors « Monsieur Heisenberg, si je vois bien ce que vous voulez dire, » À nouveau, Heidegger formula trois énoncés tout à fait précis. Heisenberg de dire « C'est très exactement ce que je cherchais à exprimer. » Alors, reprit Heidegger, il me semble que la synthèse des deux positions pourrait être la suivante. Suivirent encore quatre à cinq phrases, et nous nous dîmes tous deux, ah oui, il pourrait bien en être ainsi. Voilà la base sur laquelle nous pourrions continuer l'entretien. Et l'entretien se poursuivit.
L'épisode essentiel de l'histoire, qui débute avec l'Aletheia des Grecs, n'est pas tant sa fixation dans le latin veritas que, à l'origine du monde moderne, la mutation cartésienne de la vérité en certitude. N'est vrai, selon Descartes, que ce qui nous est certain. Or, font deux, celui qui, par exemple, est certain d'avoir la mer devant lui, parce que ses sensations visuelles, olfactives, auditives et tactiles ne peuvent s'expliquer qu'à partir de là, et celui à qui la découverte devant lui de la mer arrache le cri que, parvenus au fait d'une hauteur, les soldats de Xénophon poussèrent, paraît-il, d'une voix unanime, Thalassa, la mer. Or, qui est davantage devant la mer, le cartésien, quand il en est sûr et certain, ou le soldat de Xénophon, à qui elle se découvre? À vrai dire, ce qui se découvre est beaucoup plus, et non pas moins, que ce qui ne nous est que sûr et certain. Mais c'est même en géométrie que déjà il en va ainsi. Pour Descartes, la vision n'est plus qu'un motif de jugeote, pourrait-on dire, et c'est pourquoi il est, lui, sûr et certain de ce qu'a Pythagore, dans la figure de son théorème, c'était bien plutôt découvert au sens où le paysage se découvre à qui s'élève assez pour que le premier plan ne fasse plus écran à l'arrière-plan. Ici, la découverte est le tout de la chose, non une simple occasion d'en juger. C'est-à-dire, ajoute impavidement Descartes, une licence de nous dédire même d'une vérité tout à fait claire, pourvu seulement que nous pensions que c'est un bien de témoigner par là de notre liberté. Car Descartes est comme ça. Au fou, aurait dit Pythagore, voyons, monsieur Descartes, du calme. Toute la question est de savoir pourquoi Descartes est comme il est, c'est-à-dire aux yeux des Grecs un forcené, à savoir l'ancêtre direct de celui que Nietzsche évoque dans le Gai Savoir et qui annonce que Dieu est mort. Pourquoi donc Descartes est-il celui à qui la certitude à laquelle il aspire, éclipse l'Aletheia, non pas sans doute totalement, mais de façon telle qu'il n'en garde que juste ce qu'il faut pour monter en son lieu et place son dispositif de certitude. Ici, Heidegger ne réfute nullement Descartes, mais il le voit pour la première fois dans toute son étrangeté, étrangeté qui nous est devenue comme une seconde nature au point que Husserl, à la suite de Hegel, ne pourra voir en Descartes qu'un point de départ radical de toute philosophie.
Mais alors, lorsque dans le titre du discours de la méthode, Descartes parle de chercher la vérité dans les sciences, cela veut donc dire chercher la certitude dans les sciences. Mais d'où vient donc à Descartes cette nécessité d'accentuer en certitude le terme de vérité ?
C'est toute une histoire. Reprenons la question. Ce que vous me demandez, somme toute, revient à ceci. Pourquoi donc Descartes a-t-il besoin de substituer à la découverte grecque des choses une certitude à leur égard, la synonymie de vérité et de certitude ayant sa source dans Descartes et non ailleurs? Parce que, dit Heidegger, une dimension antérieure de la vérité elle-même, celle dans laquelle la chose nous apparaît sans plus à découvert, a disparu. Mais quand? Il y a beau temps. Platon évoque déjà énigmatiquement dans Le Banquet un exode du savoir et avec lui de la Letheia. Alors, c'est à nouveau, comme il dit, le pays de la Lethe, le pays du retrait de tout, avec, dira-t-il à la fin de la République, son grand vide d'arbres et de tout ce qu'une terre peut faire croître. On traduit souvent l'été par oubli. On le peut légitimement, à condition d'entendre précisément par oubli ce grand retrait de tout que Thucydide lui aussi évoqua dans sa description de la peste d'Athènes. Ceux qui en réchappaient, dit-il, à peine sur pied, alors c'était l'oubli de tout qui se saisissait d'eux à égalité. Cette formidable amnésie, c'est ce que l'on appelle parfois la fin du monde antique. Dès lors, nul n'a plus à quoi ni à qui se fier. C'est dans un tel élément que se déploie, dès la mort d'Aristote, la résignation sceptique, l'effort impuissant du stoïcisme, le repli des épicuriens sur leur portion congrue, et qu'enfin prend naissance le christianisme, appelé à faire une telle carrière dans le monde, en lui révélant enfin à qui se fier. Eh bien, Descartes est essentiellement, il le dit lui-même, un philosophe chrétien. Sans doute prétend-il, à la différence de la patristique ou de la scolastique, philosopher par la raison naturelle sans la lumière de la foi. Mais la raison naturelle, telle qu'il l'entend, est pétrie de la foi qu'elle entend suppléer. C'est tout le sens du virage invisible de la vérité en certitude. Dans son effort pour revenir du Christianus factus, comme il dit, de l'homme fait chrétien, à l'homo natus, à l'homme en tant que né homme, c'est tout l'héritage de la foi chrétienne que Descartes reprend à son insu jusqu'à le radicaliser dans son interprétation de la vérité comme certitude qui le place dans un tout autre monde que celui des philosophes grecs, c'est-à-dire dans un monde que sépare de celui qui l'a précédé l'animosité ombrageuse de saint Paul pour la philosophie grecque. C'est là, dit Heidegger, un phénomène dont nous ne mesurerons jamais assez énormément l'énormité. Et c'est pourquoi il ajoute textuellement « La métaphysique moderne de Descartes à Kant et, au-delà de Kant, même la métaphysique de l'idéalisme allemand, et même, peut-on ajouter, celle de Nietzsche, sont impensables sans les représentations fondamentales de la dogmatique chrétienne. »
Nous sommes donc les héritiers de cette interprétation cartésienne de la vérité comme certitude, interprétation dans laquelle, dites-vous, le christianisme paraît jouer un rôle déterminant. Mais nous sommes aussi les hommes d'un monde, du monde de la technique moderne. Comment articuler ensemble tant de diversité?
Vous me demandez, somme toute, quel rapport y a-t-il au juste entre le monde de la certitude cartésienne et le monde de la technique moderne? Serait-il donc, comme dirait Nietzsche, lui-même souterrainement chrétien? En un sens, oui, mais au sens où l'est Descartes, car, c'est bien connu, rien n'est moins conforme que le monde de la technique moderne à l'éthique chrétienne. Or, c'est à vrai dire la mutation de la vérité en certitude qui est le moteur invisible de la promotion des mathématiques en un premier plan, en qualité de quoi elles deviennent la clé de toutes les autres sciences. Et c'est cette promotion qui rend possible le monde de la technique comme monde du calcul universel de l'étang et finalement de la mobilisation totale de l'étang nommé homme dans la double figure du producteur et du consommateur. Aucun despotisme, avait dit Ernst Jünger dans son livre Der Arbeiter, Le Travailleur, aucun despotisme n'a jamais pu rêver pareille mobilisation qui, sous nos yeux, s'étend cependant à tout, à petit bruit. Il n'y a pas besoin ici d'affiches, comme en 1914, les célèbres affiches blanches qui proclamaient la mobilisation générale. Le monde, dit Zarathustra, gravite en silence. Là où les uns applaudissent, les autres vitupèrent. D'autres, enfin, prétendent régler moralement le processus, et même religieusement, la vraie morale prenant sa source dans la religion. Heidegger nous dit au contraire, même la morale, avec ses doctrines et ses injonctions, est impuissante aussi longtemps que l'homme ne sera pas capable de parvenir à un nouveau rapport avec l'être. Il s'agit d'un rapport qui permettrait de décider, non pas si quelque Dieu est ou existe, comme dit Descartes, mais bien si l'être, encore une fois, deviendra capable d'un Dieu. Mais ce nouveau rapport à l'être, ce n'est pas par le travail des futurologues qui qu'il peut se laisser annoncer, mais en un sens diamétralement inverse, par la remontée jusqu'au fondement même de la métaphysique, remontée beaucoup plus dépaysante que ne l'a jamais soupçonné aucun de ceux qui se bornèrent à en suivre le dévale, à savoir aucun des historiens de la philosophie. C'est sur le chemin de cette remontée que Heidegger nous montre Descartes dans toute son étrangeté, que le christianisme lui devient manifeste comme l'une des composantes d'une coalition de l'héritage grec et de la Bible, coalition que désignera plus tard le terme de scolastique, et que la philosophie grecque lui apparaît enfin, c'est-à-dire initialement, comme une énigme. Il n'en savait pas tant lors de la publication de Sein und Zeit, être et temps, sauf à titre de pressentiment. Mais qu'en résulte-t-il ? Rien, bien sûr. Cela n'empêche ni les gros poissons de manger les petits, ni la terre de tourner, ni même les hommes de se faire la guerre. Se pourrait-il cependant qu'après un tel ébranlement du sol, et pour tout dire un tel séisme, tout demeura comme avant ?